Le thème de ce matin, c'est cheminons vers la redécouverte du Christ et de l'autre face du disciple. Cheminons vers la redécouverte du Christ et de l'autre face du disciple. J'ai annoncé dimanche que nous allons étendre une longue période sur l'étude d'un livre, c'est le livre d'Apocalypse. Nous aurons de temps en temps des séminaires avec les mamans. De temps en temps, tous les mercredis, nous aurons un séminaire consacré sur le livre d'Apocalypse que nous allons étudier. Nous allons avoir des études bibliques dans les cellules sur ce livre-là, et même les jeudis. Nous sommes donc invités, nous tous, à cheminer dans le livre d'Apocalypse pour découvrir comment le Christ se donne à être connu pour nous les disciples et l'autre face du disciple-là dans le livre de l'Apocalypse. Je vais circonscrire mon message sur trois points. Le premier point, ce sera une brève introduction du livre d'Apocalypse. Le deuxième point, c'est pourquoi étudier l'Apocalypse. Et je terminerai par le message introductif de ce livre que nous venons de trouver dans Apocalypse chapitre 1. Et qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? En fait, que signifie Apocalypse des gens? Apocalypse des gens vient d'un terme grec, apocalypsis, qui signifie tout simplement révélation. Il s'agit ici d'une révélation concernant la personne et l'œuvre du Christ. L'œuvre qu'il a accomplie à la croix, donc sa mort et sa résurrection d'entre les morts. On pourrait donc dire que le contenu essentiel du livre d'Apocalypse, c'est Jésus, son événement. Ce que nous appelons l'événement Jésus. C'est en rapport avec cet événement que nous cheminons du premier chapitre jusqu'au 22e chapitre. Il est vrai qu'il y a eu plusieurs interprétations sur le livre d'Apocalypse qui ont amené les gens à se retrouver en marge du message central du livre d'Apocalypse. Pourtant, c'est un livre formidable, contient un message formidable et qui exalte la proclamation et proclame la victoire que Christ a acquise. Et donc, en tant que croyants, nous cheminons dans la victoire. Nous marchons dans la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous marchons dans la victoire. C'est ça que le livre d'Apocalypse proclame. Alors, une mise en garde. Il y a un passage qu'on a l'habitude de lire dans Apocalypse, chapitre 5, qui parle de livres scellés. Et beaucoup de gens ont pensé que c'est le livre d'Apocalypse qui est vraiment scellé. Le livre là dont on n'a pas trouvé quelqu'un pour pouvoir le lire dans le ciel et sur la terre. C'est déjà au verset 1. Et je vis dans la main droite de celui qui siège sur le trône un livre écrit au-dedans et au-dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Mais nul dans le ciel, sur la terre, ni sous la terre n'avait pouvoir d'ouvrir les livres ni d'y jeter les yeux. Je me désolais de ce que nul ne fut trouvé, digne d'ouvrir les livres et d'y jeter les yeux. Mais l'un des anciens me dit, ne pleure pas, voici, il a fait quoi? Il a remporté la victoire, les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, il ouvrira le livre des sept sceaux. Alors beaucoup de gens ont toujours pensé que ce livre des sept sceaux, difficile à comprendre, fermé hermétiquement, c'est le livre d'Apocalypse. Non, il s'agit plutôt de l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament qui ne peut pas être compris sans la révélation du Christ qui accomplit toutes les prophéties de l'Ancienne Alliance. Alléluia. Amen. À beaucoup de gens ont toujours pensé que le livre est trop difficile. D'ailleurs, il y a un verset qui dit « Il est fermé de cette sorte, on ne peut pas le comprendre. » C'est plutôt, bien-aimé, l'Ancien Testament. Alors, quel est le message central? Parce qu'il va falloir que nous puissions parcourir, peut-être pas chaque chapitre, mais en tout cas, on va sélectionner quelques chapitres. Quel est le message central du livre de l'Apocalypse? Il n'est pas question des images. Les gens ont pensé que ce sont les images, c'est les chiffres symboliques, c'est le règne de 1000 ans. Alors, ils sont passés outre le message central. Ce n'est pas les images. Il y a par exemple une image en Apocalypse chapitre 10, le temple est mesuré. Les gens ont toujours pensé, mais est-ce qu'on peut mesurer? Ce temple-là avait combien de mètres? Et ils prennent du temps sur le mesurage de ce temple-là. Ce temple est mesuré, ce n'est rien d'autre que les souffrances, les saints en souffrance mais protégé par le Christ qui a remporté la victoire. Alléluia. Il y a par exemple en Apocalypse 12, la femme vêtue du soleil. Il y en a qui ont pensé que c'est Marie, la mère de Jésus. Et ils ont même enseigné ça. Les interprètes non formés, non avertis ou mal formés, ils ont dit c'est Marie. Mais il s'agit plutôt ici de l'Église. Et l'Église c'est qui? C'est toi et moi, nous tous, peuple élu de Dieu de la Nouvelle Alliance. Il y a l'enfant mâle, toujours dans le même chapitre, c'est le Christ. Alors quand on met les deux ensemble, on comprend ici effectivement que le Christ qui a vaincu, il a vaincu pour l'Église. Et l'Église est dans un état de triomphe. On dirait même une église d'une dimension céleste. Il y a les dragons, toujours au chapitre 10-12, vaincu et précipité plus bas. Là, c'est vrai, les gens ont dit que c'est le diable, c'est vrai, c'est le diable vaincu, mais vaincu, précipité plus bas, ça signifie qu'il a été vaincu par l'œuvre pascale, l'œuvre de la résurrection du Christ entre les morts. Maintenant, la bête et les 666. Il y a même des gens qui appellent les autres, toi tu es 666. Dans Apocalypse 13, ce n'est ni le pape, ni l'église catholique, comme beaucoup de gens le croient, ni les conseils œcuméniques des églises, ni d'autres églises protestantes, parce qu'en fait il y a des églises pentecôtistes qui croient que les autres églises, Nimunyam, ce sont des églises qu'on appelle la bête. Non, il n'y a pas question de ça. Il est plutôt question de l'empereur romain, Néron ou Domitien et Domitien qui ont fait ravage à la fin du 1er siècle et qui martyrisaient les croyants au point que pour parler de lui, il fallait utiliser un nom codé. Et le nom codé, c'était quoi? La bête. C'est pas un frère ou une sœur ou un sorcier du quartier. Alors 666, c'est un chiffre symbolique. En fait, il y a 6, on peut mettre même 1 million de 6. Si on met une virgule après le premier 6, c'est toujours en deçà de 7. Parce que 7, c'est le chiffre de la plénitude, alors 6, c'est le chiffre de l'imperfection. Le chiffre du mal qui caractérise le règne de cet empereur romain. Venons-en aux 144 000 qui sont pour lesquels les témoins de Jéhovah ont une certaine prédilection. Il y en a qui s'efforcent. Chaque témoin de Jéhovah s'efforce pour être parmi les 144 000 qui sont les élus de Dieu. Il faut toujours lire ce passage d'Apocalypse 7, versets 4 à 8, avec le verset 9 à 10. Parce que dans le verset 4 à 8, on parle de 144 000. Mais dans le verset 9 à 10, on parle maintenant d'une multitude immense de personnes que personne ne sait compter. Alors, les 144 000, c'est un chiffre symbolique. C'est 12 fois 12 000. Tout comme ça peut être 12 fois 12 fois 1000. C'est toujours 144 000. Or, le chiffre 12, c'est un chiffre symbolique. Et le 1000, c'est un chiffre symbolique. Il est question ici, tout simplement, de tous les témoins, en fait, tous les élus de Dieu qui appartiennent à toutes les nations et à toutes les tribus, dont toi et moi. Nous sommes parmi les 144 000 qui vont se retrouver devant Dieu. Mais il ne faut pas compter 1, 2, 3, 4, 144 000. Il faut voir que c'est une foule immense que personne ne saura dénombrer qui se retrouvera devant la face du Seigneur. Alléluia.
Amen.
Je termine par le règne de 1000 ans. Le règne de 1000 ans, on en a parlé comme un règne futur. Et on a intimidé les gens en disant, en tout cas, ce règne de 1000 ans, ce sera un règne terrible. Le règne où le diable est enchaîné. La période dont il est question en Apocalypse chapitre 20 ici, c'est la période dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans le règne de 1000 ans. Ce règne a été inauguré par la première venue du Christ. Une nouvelle ère a commencé. Et cette ère a été significativement soulignée par le fait que le Christ, en mourant sur la croix, en ressuscitant d'entre les morts, le Christ a remporté la victoire. Et derrière lui, il traîne des hommes et des femmes, des jeunes garçons et filles, de toutes langues, de toutes tribus, des personnes qui adhèrent à lui et qui vivent une période très significative de la victoire de l'œuvre de la croix. Ce règne de 1000 ans va s'achever à la seconde venue du Christ. Comprenez donc que la fin des temps ont a été inaugurée. La fin des temps a été inaugurée par le Christ. Mais la fin des temps sera accomplie définitivement par son retour lorsqu'il viendra chercher son Église. Le diable étant vaincu pendant ce règne-là, les croyants participent au triomphe du Christ. Alors, bien aimé, ces images et ces chiffres symboliques que je viens de prendre, il y a d'autres qui sont dans le livre, nous allons le découvrir ensemble. Des fameux interprètes qui lisent l'Apocalypse ont l'habitude de caricaturer Dieu. C'est un Dieu qui sème la terreur. Et les gens se convertissent dans la peur parce qu'ils ont été intimidés. Mais ces conversions-là, ce sont des conversions tout simplement émotionnelles. Ça ne peut pas durer. Je reviens, le message central de l'Apocalypse, c'est l'événement Jésus-Christ. Alléluia. Sa mort et sa résurrection d'entre les morts. C'est donc une proclamation de la victoire du Christ qui rassure les croyants. Chaque fois que tu ouvriras le livre de l'Apocalypse, il faut te rendre compte que le Seigneur t'envoie un message qui te rassure, quel que soit le danger dans lequel tu vis. C'est un livre formidable de réconfort, d'espérance pour les croyants. Mais alors, quel est le problème des croyants à la fin du premier siècle pour qu'on puisse leur adresser ce message? À la fin du premier siècle, les chrétiens sont malmenés, je l'ai dit, par l'idéologie impériale. Il y a des empereurs qui se font adorer, qui prennent la place de Dieu, devant lesquels on doit fléchir les genoux, reconnaître leur seigneurie. D'ailleurs, les croyants qui étaient martyrisés, on leur posait une simple question. Ou tu dis Jésus est Seigneur, ou tu dis l'empereur ou César est Seigneur. Si tu dis César est Seigneur, tu es épargné de la mort. Mais si tu dis Jésus est Seigneur, alors là on te décapite. Si tu es marié et on te place devant ce choix-là, si tu dis César est Seigneur, on te laisse partir. Tu vas retrouver ta femme, tu vas retrouver tes enfants, mais tu es déjà mort spirituel. Parce qu'on ne réunit pas le Christ et vive. Il y a un péché qu'on ne peut pas, pour lequel on ne peut pas trouver le pardon, c'est le réuniment du Christ. Ou tu dis Jésus est Seigneur, alors on te décapite, tu meurs et tu as la vie. Alors, la question que les croyants à cette époque-là se posent, quand Jésus viendra-t-il pour établir, pour mettre fin à toutes les souffrances que nous endurons? Quand établira-t-il son règne une fois pour toutes pour en finir? Le livre d'Apocalypse, c'est un message qui a été envoyé aux disciples torturés, traumatisés, mis en situation de crise, de douleurs atroces. Et le Seigneur les rassure que quand la crise et les épreuves nous frappent, il faut tenir bon, il faut résister avec énergie. C'est ça l'appel que le Seigneur est en train de lancer à travers le livre d'Apocalypse. Il faut demeurer ferme dans la foi en Christ qui a vaincu Satan par sa résurrection dans ce monde. Il est vrai que les croyants ont déjà gagné parce que Christ a gagné à leur place. Il a remporter la victoire sur les puissances infernales, la victoire des hommes et des femmes qui croient en Christ dépend essentiellement d'un fait. C'est ce que l'Apocalypse souligne. Il faut persévérer et garder la foi. Alléluia. Il faut persévérer et garder la foi. C'est ça l'essentiel de notre message de ce matin et des livres d'Apocalypse. Alors pourquoi étudier l'Apocalypse? Juste quelques mots. Nos vies se heurtent assez régulièrement à des malheurs qui s'abattent sur nous. Et tous les malheurs transportent toujours un cortège de souffrance, par moments ou souvent insupportables. Il y a par exemple une maladie incurable. Ça vous plonge dans la confusion. Une perte d'un parent ou d'un proche. Un chômage prononcé. Une rupture brusque d'un contrat. Ou une décision irrationnelle qui plonge très facilement les gens dans une situation de confusion comme la gratuité de l'enseignement. Un enfant attendu très longtemps, une situation de crise en famille qui perdure, une séparation avec des parents et des blessures que cela reste tout au long de votre vie. Mais il y a aussi un cycle incontrôlé de violences et de guerres meurtrières à long terme que nous connaissons dans cette région. Des massacres de populations sans défense comme ce qui se vit à Béni. Les kidnappings. On pourrait se dire que le mal triomphe et le bien est paralysé. Il peut aussi s'agir d'un virus comme Ebola ou coronavirus qui sème terreur et mort. Des situations comme cela, bien-aimés, et d'autres, conduisent ces créatures très souvent à accuser Dieu d'être silencieux, passif et inactif. Et très souvent, Dieu est trouvé comme boubouc émissaire. Les gens disent, si je souffre, qui est responsable? C'est Dieu, parce que quoi? Il ne fait rien. Des communs des mortels vivant dans ce monde ainsi décrit s'attaquent très facilement au silence coupable de Dieu et stigmatisent son absence et même sa passivité face au théâtre de violence et du mal qui n'épargne personne. Ça, c'est tout le monde qui vit ça. Et on risque de se dire, c'est la fin du temps. Les croyants lui-même, toi et moi, vivant dans un environnement comme celui-là, nous ne sommes pas épargnés. Nous nous sentons dépaysés face à la douloureuse et quotidienne expérience que nous endurons, même en famille, un mari qui te fait souffrir, qui ne change pas, insensible, même un parent insensible au cri de ses enfants. Et il y a des parents comme ça, même dans l'église. Alors, toute cette douleur-là a des conséquences sur votre vie spirituelle, sur votre vie psychologique, sur le plan social, sur le plan politique et sur le plan économique. Parce qu'on s'est dit, où est Dieu dans tout ce que je suis en train de vivre? Force est de constater que les tueries à grande échelle à Bénin, les kidnappings que nous connaissons, les pluies diluviennes éboulements qui ont emporté des maisons et fait des dizaines de morts à Bukavu la fois dernière, il n'y a pas un mois, sont souvent interprétés par des personnes mal formées, non averties, que ce sont des signes chronologiques que la fin des temps est arrivée. Je vous rassure que la fin des temps a déjà commencé. Mais l'accomplissement de la fin des temps reste encore à attendre. Qu'est-ce qui nous est demandé? Persévérer dans la foi et résister. Tenons bon, nous sommes vainqueurs. Alléluia. Alors, revenons à Apocalypse chapitre 1, je voudrais aborder le dernier point de ma prédication, où nous avons lu la vision qu'expérimente le visionnaire de Patmos, Jean. On l'appelle Jean. Il dit au verset 1 d'abord, révélation à de Jésus-Christ, Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt, ce qui doit arriver bientôt. On annonce ici que le Christ va arriver bientôt. Et j'entends souvent même les chrétiens qui se moquent de ça, qui disent, il a dit bientôt, mais ça fait 2000 ans, il n'est jamais revenu. Mais s'il revient ce soir, est-ce que tu es prêt? Le Christ est en train de rassurer ses élus de son arrivée soudaine. Bientôt signifie son arrivée sera soudaine, de façon inattendue, tout comme il peut arriver cet après-midi. Mais si vous lisez le verset 4 à 7, il est dit qu'il va descendre des nuées. Il vient du milieu des nuées et tout eux le verra, même ceux qui l'ont percé. Et tous les habitants, toutes les tribus de la terre se lamenteront sur lui. Tout œil le verra. Il ne viendra pas de façon inaperçue. Il encourage ici son peuple à l'attendre. Parce que, à coup sûr, il vient. Comment allons-nous l'attendre? Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Cinq choses importantes. La première. Cela qu'il a délivré de leurs péchés qu'il aime, comme l'a dit le texte que nous venons de lire, et qui sont devenus des prêtres à son service, ne les sont pas, ils ne sont pas prêtres à mi-temps. Nous sommes prêtres à son service à temps plein. Alléluia. Et il y en a qui sont prêtres à son service le dimanche. Ils sont très bien habillés. Il chante bien, il prêche bien, mais à partir de lundi, c'est autre chose. Même après les cultes, il attend de nous une vie célébration. Une vie qui les célèbre dans peu et de grandes choses. Une vie qui les célèbre dans toutes nos activités de la journée. Si petite soit-elle. Quel que soit le niveau de ta responsabilité, tu es un prêtre à son service. Ta façon de parler, tu es un prêtre au service de Dieu à temps plein. Tu cuisines à la cuisine, tu es prêtresse à temps plein. Tu nettoies la maison, tu es prêtresse à temps plein. Tu vas à l'université ou à l'école secondaire, tu es là au service de Dieu. Même la façon de t'habiller, ça doit être une célébration. Aujourd'hui, les gens ne regardent pas ça. Ils peuvent même être bien parce qu'ils viennent dimanche à l'église, mais au cours de la semaine, ils sont malpropres, désordonnés. Ce n'est pas normal. Je ne dis pas qu'il faut être chic, mais il faut être propre. Propre dans le langage, propre dans quand on arrive à la maison, on doit trouver les choses propres. Je dis souvent à mes collaborateurs, il faut que j'arrive un jour dans votre chambre, propre en tout, ordonné. C'est une vie de célébration. Tu ne peux pas entretenir une vie de prêtre en plein temps et tu es en train de faire souffrir les gens avec qui tu travailles. Ce n'est pas normal. Pas des injures, pas des maltraitances. Ta propre femme, tes propres enfants. Nous sommes des prêtres à quel moment? À temps plein. Deuxième chose, tout croyant bénéficie des deux grâces. C'est à Philippiens chapitre 2, chapitre 1, verset 29 qui dit que nous n'avons pas seulement cru en lui comme Christ, mais nous devons aussi souffrir pour lui. C'est un privilège de croire en Christ, mais c'en est une autre de souffrir pour lui. Si tu souffres, ne souffre pas pour avoir commis les péchés. Ça, c'est ta souffrance, tu es responsable. Tu peux m'aller en prison. Mais si tu dois souffrir, souffre pour le nom de Christ. Quand tu souffres pour ce que tu n'as pas fait, tu souffres pour le nom de Christ. Ce n'est pas une occasion de dire « Mahabalita Kiyoum », non. Si tu souffres pour le nom de Christ, tu dois être fier. Il ne faut pas commencer à chercher les boucs émissaires. Troisième chose, le Christ ressuscité d'entre les morts a inauguré une ère nouvelle depuis Pâques. Voilà pourquoi la fête de Pâques est même plus importante. Bon, peut-être que j'exagère, mais en tout cas, c'est là que nous avons commencé une nouvelle vie. Mais les gens se concentrent plus sur la fête de Noël. Ils sont bien habillés les jours de Noël, mais les jours de Pâques, ouais, puis... il n'y a même pas de fête. N'est-ce pas? C'est là qu'une ère nouvelle a été inaugurée. Nous avons commencé un temps transitoire. En attendant la venue, la seconde venue du Christ, les disciples doivent tirer les conséquences du choix qu'ils ont fait. C'est-à-dire, ils doivent tenir bon. Il faut tenir bon par rapport au choix que tu as fait. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Dans les bons, comme dans les mauvais jours. On doit le suivre à temps plein, même dans les mauvais jours. Il n'y a pas de raison d'abandonner. Quatrième, les disciples ont en partage trois réalités fondamentales. Selon le verset 9, la détresse, la royauté et enfin la persévérance. Apocalypse 1, verset 9. Si on disait que nous choisissions parmi les trois, nous allons choisir quoi? La royauté, n'est-ce pas? La détresse, non. Attends, bébé. Et pas la persévérance, mais en tout cas la royauté. Mais les trois vont ensemble, c'est une chaîne liés. Les trois sont ensemble. Détresse parce que, bien aimé, avant d'entrer dans le royaume, les tribulations sont une voie obligée. Acte 14, verset 22. Hier, je faisais une méditation dans notre réunion et quelqu'un m'a posé la question, mais pasteur, toi aussi tu exagères. Est-ce que la souffrance vraiment... Il faut toujours qu'il y ait la souffrance. J'ai dit oui, c'est une voie obligée. Que nous voulions ou pas, elle est là. Elle est même importante. Parce que Dieu s'en sert pour nous façonner, pour façonner notre caractère. Pour nous transformer, nous rendre purs pour le royaume de Dieu. La royauté... Il n'est pas question de se considérer seulement comme prince et princesse. Je serai couronné. Vous aimez trop ce cantique. Mais tu ne seras couronné que si tu as persévéré, n'est-ce pas? Tu ne pourras bénéficier de ce règne en totalité que si tu demeures en communion avec le Christ. Tu participes à la victoire sur les tentations, sur le péché, sur les diables, sur les idéologies de notre époque qui emportent beaucoup de gens et de jeunes, et te soumettre à la Seigneurie du Christ. Nous tous croyants, nous participons. L'Église en premier participe à la souveraineté du Christ, sa Seigneurie. Si on formait un cercle, nous avons le contrôle de la Seigneurie du Christ parce que le Christ nous fait participer à cette Seigneurie-là. Voilà pourquoi nous chassons les démons. Mais il y a des croyants qui fuient quand il y a un démon. Quand on dit nous allons prier dans une famille, aujourd'hui nous allons faire des prières de délivrance, les gens commencent à aller. Si vous étiez 10, vous restez 3. Le diable et le non-croyant sont soumis à cette Seigneurie. Mais nous, par le Christ, nous participons. Alléluia. La persévérance. Troisième maillon de la chaîne des trois. À laquelle est attaché le règne. Nous avons chanté le cantique qui a dit, si nous persévérons, nous ferons quoi? Nous régnerons avec lui. Il n'y a pas de persévérance que pour un but. La persévérance, c'est pour un règne. Parce que si nous n'avons pas persévéré, si nous régnions pendant cette période, il va nous régner. Il ne va pas nous reconnaître. Seuls régneront ceux-là qui ont persévéré, qui ont été constants et qui ont enduré. Enfin, nous sommes appelés à garder des robes blanches. Amen. Nous devons garder nos robes blanches. Purifiés par le sang de Christ, nous le sommes, si nous avons adhéré à Christ. Mais nous devons cultiver, garder la robe signifie cultiver notre fidélité éthique, responsable. Nous devons veiller à rester fidèles au Seigneur, dans les petites comme dans les grandes choses. Nous devons expérimenter dans la communion avec le Christ notre victoire sur le péché. Il n'est pas question de tolérer le péché dans notre vie. Il n'est pas question d'avoir le péché chéri. Péché, il y a des gens qui ont le péché qu'ils aiment beaucoup. Le Seigneur sait que c'est ma faiblesse. Seigneur, non, c'est un péché, ce n'est pas ta faiblesse. Il n'y a pas de péché à protéger. Vie de fidélité éthique et responsable. Et cela n'est possible que si nous restons en Christ, nous marchons à lui, parce qu'être disciple signifie, suivez le film qui dit mon pied, ton pied. Ça, ce sont les femmes qui le disent à leur mari. C'est plutôt nous les disciples devons dire, Seigneur, ton pied, mon pied, là où tu as mis un pas, je te suis. Tu as mis un pas, je te suis. Si tu me dis de passer à gauche, j'y vais. Si tu me demandes de monter, je monte. Si tu me demandes de descendre, je descends. Je n'ai plus de seigneurie sur ma propre vie. Christ en est l'élève. Amen le Seigneur. Et si je dois régner avec lui, je dois faire attention à la manière de mener. Amen.